savoir-faire en usage.
C'est tous les dimanches à 9h30 et les mardis à 14h.
Michel Mailleux au micro, avec vous, actrice, acteur de l'usage Pompe du Gard.
Vous êtes nos invités sur l'antenne Radio Fuse.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter Radio Fuse 107.5, fréquence usage. Aujourd'hui, une émission qui portera sur une possibilité, une volonté d'avenir commun de territoire, appelée pour l'instant PNR, qui évoluera certainement. J'ai le grand plaisir d'accueillir au micro aujourd'hui
Dominique Martin-Ferrari, journaliste.
Bonjour.
Bonjour.
Et Antoine Chaparin, boulanger à Sagnac.
Et à Uzès.
Et à Uzès aussi, oui.
Merci. Un grand merci également à la technique, Tristan. Parlons ensemble de ce projet. Quelle ambition, quelle définition pourrais-tu nous donner, s'il te plaît, là-dessus ?
Alors, journaliste, on est journaliste de plein de choses. Donc, simplement signaler que moi, j'ai un peu travaillé beaucoup même dans les projets d'environnement et de développement durable internationaux et aussi sur les projets nationaux. Alors, le projet du parc, pour ce que j'en ai compris, c'est qu'il s'agit de rassembler des savoir-faire, de rassembler des hommes et des femmes qui travaillent ensemble dans un domaine particulier qui est celui de l'usage. L'idée, c'est de construire ensemble un projet commun de gestion des savoirs, du patrimoine et du paysage.
C'est tout à fait ça. L'idée en fait majeure qui est derrière tout cela, c'est qu'on a individuellement de réelles capacités qu'il faut parfois aider à découvrir, mais de réelles capacités. Mais l'idée, c'est que additionner ces compétences nous permettra, on l'a vu dans d'autres parcs nationaux ou des parcs naturels régionaux, une possibilité de mieux faire ensemble. Mieux faire d'un point de vue développement économique, d'un point de vue lien social, de soutien en termes de patrimoine, de soutien en termes donc tout simplement de communication entre nous, du lien.
Et je pense aussi que ce qui est important, c'est de veiller à ne pas rajouter du millefeuille administratif.
Surtout pas.
L'idée, au contraire, c'est que parmi toutes les structures administratives qui existent aujourd'hui, cette structure partant davantage de la société civile, de la base, trouve en elle-même les liens et les mécanismes qui lui permettront justement d'alléger peut-être et d'aller plus vite et en tout cas de mener à terme ces projets.
C'est un projet qui concerne les gens. Et d'abord les gens, et essentiellement les gens, que les gens. Ça veut dire par là, et je reprends ta formule de la base, c'est bien cela qui nous préoccupe, et l'objectif. Et quand je parle de la base, on va y aller directement. Antoine Chaparin, qui a accepté de venir au micro et témoigner, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes? Comment vous travaillez et en quoi, pour vous, le fait de mutualiser sur un territoire, c'est quelque chose qui vous semble important et d'avenir ?
Eh bien, moi, je n'ai pas entendu qu'on parle à l'heure d'aujourd'hui d'un parc pour travailler avec des agriculteurs. Ça fait 23 ans que j'exerce en tant qu'artisan boulanger et j'ai toujours travaillé qu'avec des indépendants. Je me suis toujours rapproché, s'il y en a un qui faisait de l'huile, de travailler avec de l'huile qui était à proximité. De la farine, il n'y a pas de meunier dans le département, c'est dommage. Il y en a en Lozère et en Ardèche.
Mais vous avez dit que les derniers meuniers étaient partis d'ici, il n'y en a plus ?
Alors, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus du tout un seul. Et en Lozère, il en reste deux. Il y a deux minoteries qui sont indépendantes et familiales. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les agriculteurs sont obligés d'amener, s'ils veulent faire des petites quantités de blé, les écraser et les vendre préparés suite à des boulangers. Ils sont obligés d'aller les écraser soit dans la Lozère, soit ils s'équipent, ils achètent un tout petit moulin et à l'heure aujourd'hui, j'ai des agriculteurs qui me vendent du petit épeautre qui est semé à 50 ailes à poterie.
Alors justement, faire le blé, l'écraser, je reprends, l'écraser, il y a plusieurs façons de l'écraser, on va dire à l'ancienne, mais qui est en fait révolutionnaire, qui est de l'écraser avec une pierre, beaucoup plus rentable. On peut le développer, cet aspect-là, des choses ?
Alors, il y a la minoterie Collagne en Lozère, qui est tenue par M. Constant, qui recherche ce sont des pierres en silex, qui recherchent de partout en France, et qui écrase le blé, et il a un rendement de 90%. En écrasant avec la meule de pierre, c'est torréfié, ça y donne du goût à cette farine, et on a un excellent pain.
Meule de pierre, très très concrètement, là, savoir-faire local, on retrouve des traces avec ce type de meule de qualité de pierre à Saint-Quentin-la-Poterie.
Aussi, hein, oui.
C'est
oui.
Ça, hein. Et ça date des romans, c'est ça ?
Les traces, oui, nous permettent de dire qu'aujourd'hui, c'est aussi vieux, aussi ancien que cela. Mais l'avantage, c'est que c'est plus rentable. Il y a un rendement là-dessus.
Ah, mais il y a un meilleur rendement, oui. Mais mécaniquement, on a 70% de rentabilité et 30% de déchets, qui est pour les animaux. Et une meule de pierre, on a 90% de rentabilité. Donc, on a les enveloppes du blé qui sont nutritifs pour le corps humain. Et le blé est torréfié aussi par la suite. Alors, donc, ça y donne un goût au pain qui est un goût de miel. Et on a envie, dès qu'on a coupé la première tranche, d'en manger une seconde.
Alors, vous travaillez davantage avec la petite épeautre. Alors, comment vous faites et pourquoi ?
Pourquoi la petite épeautre ? Il y a une grosse demande. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que la mie elle est dense qu'elle se digère mal. Au contraire, elle se digère davantage.
La petite épeautre est une variété de blé. Pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas forcément.
Oui, alors oui.
Et puis dites-nous, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était bon, que ça sentait bon. Qu'est-ce que ça donne comme impression, cette petite épeautre ?
Qu'est-ce que ça donne comme...
Que du plaisir.
Que du plaisir.
De reviens-y.
Alors, vous avez des agriculteurs aujourd'hui qui vous fournissent ?
C'est dans le bassin alésien et en Lozère qui est semé, du moins celui que j'achète, qui est écrasé à la Minoterie Collagne. Là, j'ai un agriculteur qui en a semé à Saint-Quentin-la-Poterie qui m'en vend et il veut monter en puissance. Et voir s'il y a un marché.
Et c'est cette personne dont vous nous parliez, pardon, qui est agriculteur et en même temps ouvrier.
Voilà, il est ouvrier dans une usine. Et pour ne pas lâcher sa place d'ouvrier, parallèlement, il sème du blé pour essayer de se lancer dans ce métier. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas lâcher, et être s'improvisionner agriculteur si on ne sait pas s'il y a des débouchés et qu'il y a une demande.
Dans le savoir-faire de l'usage, on a quand même déjà un précédent, puisqu'on a le fameux Raspaillou.
Oui, alors Raspaillou, il a été initiative de Jean-Marc Tourelle, qui est boulanger à Uzès, avec le syndicat de la boulangerie et le CIVAM, pour monter une filière avec le département aussi, avec l'aide du département. Pour monter une filière Raspaillou, on a mis 7 ans pour monter cette filière. Pour arriver de agriculteur à un meunier, de meunier à un boulanger et se retrouver sur les tables. Le Raspaillou est en forte demande. Travaillé par très peu de boulangers parce que son prix est un petit peu élevé, étant donné qu'il y a une...
Il y a plus de main d'œuvre et puis...
Pas forcément plus de main d'œuvre, mais pour avoir les agréments en bio, il y a toute la filière à surveiller. Et en fait, ça a un coût. Alors d'aujourd'hui, quand on fait du bio, il faut se justifier.
Il faut payer. La certification bio se paye au
voilà,
départ.
Donc je trouve que c'est dommage. Alors moi, je travaille du bio, mais je travaille avec de la farine qui est issue de l'agriculture biologique, mais je l'affiche pas automatiquement au magasin. Donc moi, je cherche une qualité de farine et travailler avec des acteurs locaux et pas aller à des milliers de kilomètres.
Alors, qu'est-ce que vous attendriez, vous, par exemple, d'une structure qui construise justement en commun ? Qu'est-ce qui vous semble manquer encore dans toute cette filière ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ?
Ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui, des amendes, par exemple. À Arpaillargues, c'était à l'époque, il y a combien d'années
Des amendes à manger.
Des amendes à manger, effectivement, pas les amendes qu'on prend sur le pare-brise. Ou maintenant, on ne les prend plus sur le pare-brise, on les reçoit directement à la boîte aux lettres.
Pas la maman pégée, quoi.
Et à l'heure d'aujourd'hui, j'entends dire qu'il y en a qui commencent à en planter. Il y a aussi...
On en a au Mont Bouquet, un peu. Le problème, c'est qu'au prix à la vente, ils sont deux fois supérieurs que les amandes qui viennent de Turquie.
Mais peut-être qu'elles sont meilleures, parce que celles que j'achète, je trouve chères. Et ouais. Dedans, vous avez un pourcentage d'amandes amères ou de mauvaises amandes. Alors d'aujourd'hui, on a du mal à trouver des amandes. On en trouve des amandes, mais pas de bonne qualité.
Donc, trouver de nouveaux produits.
Oui, des nouveaux produits.
Filières locales.
Il y en a automatiquement. Il en manque.
Hein. Alors, des amandes, quoi d'autre ?
Des amandes, alors là, ce qui me vient à l'esprit, j'ai pas. Il y a tout ce qui est légumes, hein, ça peut être les tomates, les salades, puisque je fais saladerie aussi. Ça peut être. La filière, elle est énorme hein, au niveau de l'agriculture.
Tout. Et sur les blés, ça peut être aussi, ça peut se diversifier davantage. On a encore des semences anciennes, on a encore des possibilités de retrouver des, des races.
Alors, il existe plusieurs semences et à l'heure d'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ne savent pas que... Parce qu'ils disent on ne sème pas des blés parce qu'ils sont mangés par les sangliers. À l'heure d'aujourd'hui, il existe des blés à barbe que les sangliers ne mangent pas. Et les agriculteurs sont ne sèment pas par ignorance, peut-être, je ne sais pas. Donc, il existe des blés...
Les blés à barbe, justement, un savoir-faire local, mais qui date d'il y a très longtemps. Hein.
Oui, mais peut-être que les semences ne se sont pas autorisées à être semées. Oh.
Si on part dans les détails, si on part dans les détails.
Alors aujourd'hui, on veut tout contrôler.
Mais justement, peut-être que c'est le moyen de remettre en place des filières locales et courtes.
Oui, mais courtes, mais peut-être pas dans le temps. Il nous faudra peut-être 20 ou 30 ans pour faire quelque chose de réalisable.
Oh, vous êtes optimiste.
On a mis 7 ans pour monter le raspaillou. Alors, si on veut monter les filières, là, on parle autour d'un micro, planter des arbres pour faire des amandes et les avoir sur l'assiette ou faire des...
Mais du blé, ça va plus vite quand même.
Il faut se mettre au travail maintenant.
Voilà, il faudrait se mettre au travail.
Il y a une expression que j'ai relevée quand on a préparé cette émission qui m'a beaucoup plu. J'aimerais que vous en disiez davantage. Une main lave l'autre. Hein ? Une main lave l'autre.
Je croyais qu'il n'avait pas retenu ça.
Non, j'ai tout noté.
Non, il y a un retraité qui me disait on ne peut pas se laver les mains, on ne peut pas se laver la main tout seul. Donc une main lave l'autre. Donc on a besoin des uns et des autres pour construire un parc, n'est-ce pas ?
Très bien, un parc. À développement. Local.
Oui, façonné, oui. Hein? On façonne le territoire.
Exactement. Ça dépend que de nous.
Voilà.
C'est ça ?
Oui.
Et l'avenir, vous le voyez comment ?
L'avenir, je le vois comment ? Ben, il faut s'y mettre de suite, alors, si on veut qu'il avance. Bon. Parce que il faut pas attendre, il faut foncer.
Et le moyen pour vous ?
Le moyen pour réaliser ce travail ou...
Pour s'y mettre tout de suite.
Ben, moi, ça fait 23 ans que j'ai commencé à travailler avec que des producteurs locaux. Quoi. J'ai pas attendu que les médias me parlent, parce que là, c'est tendance. Mais j'ai pas attendu que les médias me parle pour moi me fournir. Ça fait des 23 ans que je me sers à des meuniers indépendants, c'est pas sans raison quoi.
Mais si les médias commencent à en parler, c'est peut-être bon signe pour vous. Ça veut peut-être dire que ceux qui ont ramé il y a longtemps, aujourd'hui ceux qui travaillaient ensemble, ceux qui travaillaient localement, ceux qui travaillaient avec des valeurs, hein, peut-être que tout cela est en train de se redécouvrir un peu.
Mais aussi on crée des amitiés quand on travaille avec des gens qui sont agriculteurs, qui sont ça peut être maraîcher ou autre, on crée un lien automatiquement. Ils viennent dans votre magasin, ils achètent dans votre magasin. Donc, on se retrouve à travailler tous ensemble et on crée de l'emploi en même temps.
Bien, un grand merci pour ce témoignage, merci. Antoine Chaparra. Un magasin qui se trouve à Sagnac, la Fougasse d'Uzès et le Goûter d'Uzès, c'est ça ?
Oui.
Merci.
Merci.
Merci d'écouter Radio Fuse. Nous reprenons notre émission sur la valorisation possible de notre territoire. Valorisation à tous les points de vue, économique, patrimoine, valorisation sociale, valorisation sur un développement de tourisme. Mais avant toute chose, on le disait un peu tout à l'heure en début d'émission, être aujourd'hui concerné par son territoire, construire ensemble un avenir, comment on peut l'approcher d'une façon beaucoup plus précise pour toi ?
D'abord, je pense que ce qu'il faut mettre en exergue, c'est peut-être faire les constats que tout le monde a déjà fait de ce qui ne va pas. Donc, on sait que c'est un territoire qui est traversé beaucoup par les touristes qui s'y arrêtent très peu. On sait que c'est un territoire qui est menacé par l'extension galopante des mégapoles qui l'entourent. Et que, en même temps, c'est un territoire qui est difficile aussi parce qu'il a un paysage qui s'impose et qui est un paysage à la fois grandiose, magnifique, mais difficile d'accès humain. Donc, une fois qu'on a vu les constats, il faut essayer de trouver ensemble les solutions. Et ces solutions, elles sont déjà dans les tiroirs. Il n'y a pas besoin de gens de l'ENA pour les trouver. Tous les acteurs du territoire travaillent ensemble et ont sans doute des solutions qu'il faut absolument agglomérer et qu'on doit mettre en commun pour agir plus vite.
Solutions agglomérées, mais pas justement d'une façon singulière, à l'unité ou quelques unités près. Et ça a été développé par la Chambre de commerce récemment, c'est effectivement avoir un véritable maillage de territoire, avec un partage localement de nos activités. On est sur le système aujourd'hui, on dort, on travaille, on vit à des endroits tous différents. Un projet de territoire, c'est l'inverse ?
Un projet de territoire, c'est un projet qui... On en a beaucoup discuté à la grande réunion onusienne de Quito, Habitat 3, où on avait les pays riches qui venaient en défendant les grandes villes, les mégapoles. Et on avait au contraire les territoires qui étaient économiquement en développement, qui disaient, ben non, l'avenir, demain, on ne sera pas tous dans les villes. On sera aussi dans des territoires. Et il faudra relier les territoires aux villes. Et je crois que c'est ça, l'avenir qui est important. C'est valable au niveau local comme ça l'est au niveau international. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement, on redessine, que ce soit une sorte de maillage sanguin de ce territoire, que ces villes viennent alimenter, mais que ce soit réciproque, que tout ça circule, et qu'on ne soit plus comme dans les anciens systèmes, où on séparait, comme tu viens de le dire, le fait d'aller dormir là, le fait d'aller travailler là, le fait qui augmentait les transports.
Alors, justement, ce territoire qui est pressenti, qui serait donc compris entre la partie... On disait, hein, on a Alès, on a Bagnoles, et on a en dessous Nîmes, c'est une réserve d'Indiens qu'on nous prépare, là ?
Bah, au contraire.
Ah.
Justement, au contraire, c'est le fait que les gens, ben, ils vivent, et que vivre, ça veut dire assurer toutes les fonctions. Ça veut dire manger, dormir, travailler, et pas passer moitié de sa vie dans sa bagnole.
Voilà, sentir, aimer.
Sentir, aimer.
Apprécier la musique. On va faire une pause musicale. Merci. Pierre Knanders pour sa chanson Mardi Gras. Merci d'écouter Radio FU 107.5, fréquence usage, la radio de l'usage, Pont du Gard. Nous sommes en ce moment, pendant une demi-heure, ensemble pour une émission qu'on pourra appeler PNR, qui s'appellera peut-être autrement, mais une volonté de développement de pays, de territoire, PNR, parc naturel régional. Développement de territoire, économique, on l'a déjà dit, patrimoine, développement, lien social, des activités culturelles, locales, et également donc soutien à des possibilités de tourisme, mais surtout l'idée, c'est de faire du lien entre tout cela, puisqu'on est bon individuellement, mais on est bien bien meilleur collectivement. Alors, la question, et on l'entend maintes et maintes fois, c'est encore un truc en plus dans un millefeuille où des gens ne comprennent rien au niveau administratif, ou c'est autre chose que ça, c'est l'inverse. On balaye tout ce qui est un peu tordu et compliqué, et on rassemble pour faire plus simple et efficace.
En tout cas, c'est ce à quoi tout le monde monde est en train en ce moment de s'essayer. C'est tous les acteurs locaux, d'après ce que j'ai compris, qui essaient de mettre ensemble leur énergie et de voir comment balayer, en tout cas ne pas rajouter au millefeuille administratif, hein. Comment s'organiser, comment faire en sorte que toutes ces actions qui existent puissent être ensemble coordonnées. Sans qu'on rajoute aux structures administratives SCOT et compagnie quelque chose de plus.
Alors le SCOT qui est le schéma de cohérence d'organisation territoriale qui nous donne les règles d'urbanisme pour nos fameux plans locaux d'urbanisme, etc., hop, serait récupéré dans cette structure, c'est possible.
Bah, en tout cas, c'est tout ce qui est en discussion encore pendant une année pour établir ensemble une charte qui deviendra ensuite le point de départ justement de ce parc régional.
Alors, c'est important peut-être là de le préciser, un mot-clé, la charte. La charte, ce sont les acteurs, l'ensemble des acteurs qui donnent la définition de la charte. En clair, on se donne une règle, ensemble, on en discute, on fait un diagnostic, quels sont nos richesses de territoire, nos inconvénients de territoire, qu'est-ce qu'il faut développer, où a-t-on un avenir possible ? Ensemble, on l'écrit et ensemble, on décide de l'appliquer. Et ça fait aussi possibilité de faire règles communes, mais possibilité d'une évolution entre nous. La charte n'est pas figée. C'est ça qui est intéressant. Un PNR ou autre structure, celui de l'usage ne ressemblera pas à celui de l'Uberon, par exemple.
Ben non, bien sûr, puisqu'il dépend dans sa formation de sa réalité. Justement, donc, ils ne peuvent pas se superposer. Le parc régional de Camargue n'a rien à voir avec celui du Luberon, par exemple.
On parle d'une réalité de territoire.
On parle d'une réalité de territoire. Et quand on compare, par exemple, le travail qui a été mis en œuvre sur le parc de Camargue, ben, il a fallu que, pendant quelques années, réussir à fonctionner ensemble, les agriculteurs, les riziculteurs, les protecteurs en même temps de la nature, le tourisme. Il a fallu que chacun discute et s'accorde pour tirer ses marrons du feu.
Donc ça part d'une ambition de savoir d'abord s'entendre, s'écouter, comprendre de où on vient, savoir comprendre où nous habitons, voir nos besoins et possibilités de développement.
Et surtout, voir la suite, oui, c'est ça. Hein? C'est-à-dire, c'est comment construire un avenir commun, c'est-à-dire comment se donner une chance demain de ne pas être enterré par, justement, les grandes villes locales.
Bon, c'est un beau projet, hein? Ça donne de l'ambition.
C'est un beau projet.
C'est bien. Hein? On va en profiter, on va interroger le président. Le président, on va dire, de Cazotte, attention, légumes, non, c'est pas, justement, c'est complètement l'inverse, qui va nous donner son ressenti et la définition un peu de ce que pourrait être ce type de projet. Merci au président de l'association Usage. On va noter, insister sur le fait que ce type de projet ambitieux ne modifie en rien les règles générales applicables au droit de propriété. Ça ne va rien toucher à votre propriété, à la chasse. Le PNR, si c'est un PNR, ne va pas du tout interdire la chasse ni la pêche. Rien de fondamental en termes de changement sur vos habitudes, la façon de vivre sur votre territoire, dans votre village, dans votre commune. On va peut-être aussi souligner si l'économie fait le paysage et pas l'inverse. On va peut-être parler un peu plus du paysage. La notion toute simple au départ, quels critères a-t-on retenu pour arrêter un territoire ? Le mot-clé, garrigue. C'est exact ?
Alors, garrigue, effectivement. Mmh. Et puis, en même temps, je crois aussi ce passé romain qui trace toute cette région.
Bien. Alors, après, la fameuse question du pognon. Non, un PNR ou autre, ça ne vous coûtera pas davantage d'argent à me payer. Ce n'est pas des impôts en plus, ce n'est pas de la fiscalité en plus. C'est de l'argent qui existe déjà, qui est redistribué et utilisé différemment. On dit quand même qu'un euro investi par une collectivité qui reçoit déjà de l'argent, c'est 10 euros retrouvés dans l'activité multiple sur une activité PNR. Auditrices, auditeurs, on tient à vous remercier pour votre écoute, votre attention. Soulignons tout de suite que nous allons à Radio Fuse organiser une série d'émissions, 3, peut-être 4, qui développeront davantage ce que pourrait être cet avenir commun à construire ensemble.
Donc, on se retrouvera.
Évidemment, voilà. Avec grand plaisir. Dominique, merci, au revoir.
Au revoir, Michel. À bientôt.
Henri de Cazotte, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation, bienvenue sur Radio Fuse. Nous sommes dans notre émission PNR, comprendre le pourquoi et le comment d'un tel projet sur le territoire de l'usage. D'ailleurs, Déjà d'entrée, je voudrais souligner un point. Vous êtes diplomate. Diplomate, quelle articulation peut-on faire entre cette profession de diplomate et un projet PNR en usage? Quel est le... Bon, dites-moi.
Oui, si vous voulez, je viens de travailler toute ma vie aux questions de développement durable sur le plan global, sur les questions planétaires, les questions du climat, les questions d'objectifs du développement durable que la communauté internationale souhaite mettre en œuvre et atteindre. Et maintenant, à la fin, disons, de ma carrière professionnelle, je veux me retourner vers le local, vers les territoires et essayer de mettre en pratique de façon concrète ce que j'ai essayé de promouvoir dans un cadre plus institutionnel, plus politique. Et il me semble qu'il faut agir localement maintenant à tous les niveaux. Donc c'est pour cela que j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose dans ma petite région.
D'ailleurs, vous habitez sur Uzès, me semble-t-il.
Oui,
c'est exact.
Je suis sur Uzès, la maison de mon père, de ma famille.
Parfait. D'ailleurs, vous étiez acteur sur la COP21, si mes informations sont bonnes. Donc, en clair, si je comprends bien, une compétence à l'international que vous souhaitez mettre au service de notre territoire de l'usage Pont du Gard. C'est exact, hein?
Je pense que la communauté internationale sent qu'elle doit changer sa façon de se développer, de mêler à la fois le social, l'environnemental, l'économique, trouver une qualité de vie qui ne détruise pas la planète et qui nous permette de donner un avenir à nos jeunes, à nos enfants, à mes enfants et petits-enfants, si vous voulez. Donc c'est bien ça que je souhaite promouvoir.
Merci. Une question de Caroline de Radio Fuse.
Bonjour, je voudrais en fait que vous exprimiez, bon, peut-être personnellement et professionnellement, par rapport à la transition énergétique, comme on l'entend. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Et sur l'usage, est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités réelles?
D'abord, on a une loi qui a été votée, qui est un énorme changement de paradigme dès que l'ensemble des pays de la planète, et en particulier les pays les plus riches, ceux qui produisent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, donc notamment la France, mais aussi nos voisins, l'Allemagne, toute l'Europe, le Royaume-Uni, nous devons faire un tournant dans notre consommation et notre système de production d'énergie. Et ce tournant, c'est quelque chose que l'on doit engager à tous les niveaux, puisque au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau local, mais aussi dans les grandes industries. Donc chaque ruisseau compte, chaque petite goutte de pas en avant compte. C'est un projet que chacun peut porter. C'est de la même façon qu'on apprend à l'école à ne pas laisser couler l'eau des robinets. Eh bien, il faut aussi ne pas dépenser plus d'énergie que l'on en a besoin. Donc, ça veut dire des changements de comportement. Et dans notre région, bien sûr, nous ne sommes pas la région la plus émettrice d'Europe ou du monde. Nous sommes une région faiblement émettrice. Nous avons des atouts, si vous voulez. Nous avons le soleil, nous avons une façon de faire, de se transporter. Nous pouvons faire des changements, faire des modifications dans notre façon d'être, y compris dans nos villages.
Ce que nous pouvons nous proposer sur et par le projet PNR. Du diplomate, je passe au président. Vous êtes le président de l'association Usage. Pourriez-vous nous dire quelques mots à cette association et quelle est l'implication de Usage, association, dans le projet PNR?
L'Usage, c'est une association qui est en usage, à Uzès, depuis 1955. C'est donc une association très historique qui a beaucoup fait pour le patrimoine, pour la construction, la préservation de nos villages, d'Uzès aussi, donc de tout le patrimoine historique d'Uzès. Et donc ce sont des amis d'Uzès et de sa région, ce sont des membres qui ont le souci du long terme et de l'intérêt général et qui n'ont pas de vision politique. Ils sont là pour, aider les collectivités, aider les responsables à penser autrement, à avoir une vision du futur qui préserve notre identité locale, notre tous les atouts de notre région qui sont uniques. Et donc nous avons, au-delà de notre, disons, de notre activité sociale, de notre activité d'amis de l'usage, nous avons lancé plusieurs projets.
Parfait. Henri de Cazotte, je tiens à vous remercier pour votre participation, d'avoir accepté notre invitation. Notons dès maintenant les rencontres Pont du Gard. Vous l'annonciez tout à l'heure, le mois d'octobre, c'est exact.
Le jeudi 12 octobre.
Jeudi 12 octobre. Merci encore pour cet entretien. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau à d'autres occasions, ne serait-ce que pour parler davantage du PNR. Au micro de Radio Fuse, je vous souhaite une agréable et bonne journée. Merci à vous. C'était Savoir-faire en usage.
Sur Radio Fuse 107.5.